Bonjour à tous. Oui, non, vous ne rêvez pas. Cinécast est de retour pour une émission spéciale. Ça fait un petit temps qu'on était un peu dans l'ombre, n'est-ce pas Thibaut?
Ben oui. D'ailleurs, je crois que la dernière émission qu'on a faite avant ça, c'était déjà une émission spéciale, c'était à Cannes.
Oui, tout à fait, c'est à Cannes. Et là, on a été un peu chamboulé à notre tour de Cannes, plusieurs choses qui sont passées.
On n'a pas été très prolifique.
Un mariage, des choses.
Ah ouais?
Oui, le
meilleur. C'est donc ça, Stano.
Tu l'entends?
Ah ouais.
Donc voilà. Oui, et puis des choses en coulisses, des projets dont on ne peut pas encore parler éventuellement, mais vous allez peut-être les voir bientôt. Soit il y a des choses qui se passent en coulisses, mais on voulait absolument enregistrer ces missions-ci, non pas pour refaire les films de la semaine, mais pour parcourir un petit peu les différentes sorties de l'été, puisqu'on pense que c'est quand même le gros sujet en tant que fan de cinéma, à savoir un peu quels sont les films qui vont nous surprendre ou pas. On en a vu certains, il y en a beaucoup qu'on n'a pas encore vu. Et donc l'idée, c'est de faire vraiment cette preview et quand on a vu le film, de faire une petite critique en quelques mots pour pas torturer trop longtemps, parce que sinon, si on va s'arrêter sur 4 films par semaine, ça va être un peu long.
Ouais.
Donc voilà.
Puis il y a un match à regarder après.
Oui, c'est ça. La Coupe du Monde a commencé aussi, ça c'est autre chose. Mais c'est pas pour ça qu'on n'a pas enregistré, n'est-ce pas?
Effectivement.
Pas directement mettre les gens sur les mauvaises pistes. Parlons alors le premier film de l'été, si on peut dire ça comme ça. Bien sûr, il y a eu Jurassic World, Fallen Kingdom, etc. qui sont sortis au mois de juin. D'ailleurs, la première constatation qu'on peut faire, c'est que les gros films de cette année, en tout cas les films qui tâchent, sont sortis en fait, pour la plupart d'entre eux. Hein.
Ouais.
On a eu les Avengers, etc.
C'est que au premier abord, on n'a pas l'impression d'avoir un gros été plein de blockbusters comme on a pu avoir les années précédentes.
Mais il manque un petit
Michael Bay. Tout simplement parce que... Oui, oui. Mais tout simplement parce que maintenant les blockbusters sortent toute l'année. Alors qu'avant, effectivement, ça, c'était plutôt printemps et l'été. Là maintenant, ça sort toute l'année, donc l'été n'est plus la saison de l'année où on a toutes les grosses sorties.
Non, et donc du coup, mais bon, ça reste quand même assez beau. Hein. Je vois le line-up en 2-3 mots, on a déjà Mission Impossible 6, etc. Equalizer 2, Sicario, la suite, et puis Les Indestructibles 2. Je pense que c'est le film qui va ouvrir cet été.
Ouais.
D'ailleurs, il sort le 27 juin, donc ce sera effectivement l'été. Cette suite tant attendue, je crois que je sais plus combien d'années ça fait le précédent, plus de 10 ans.
14, hein. Il me semble. Il me semble que le premier est sorti en 2004.
Oui, c'est ça.
Je pense.
Toujours du coup film Pixar. Cette fois-ci, c'est Brad Bird qui s'y colle. C'était lui aussi qui avait fait le premier?
Oui, exactement.
Ah, ok, d'accord. Je croyais que c'était peut-être la même personne que Toy Story. Le nom m'échappe.
John Lasseter.
Ouais, non, mais non, non, ah, non. Le bon vieux John avec sa chemise.
Ouais.
Qui fait ses valises. Soit. Donc, Les Indestructibles 2. Sort maintenant bientôt au cinéma. Forcément, on est un peu dans le même délire, hein, une famille de super-héros. On se concentrait beaucoup avant sur le père et la mère. Ici, à voir les bandes annonces, les posters, etc., ça se concentre plus sur l'ensemble de la famille, y compris un petit bébé.
Ouais.
C'est ça?
Mais oui, dans le premier, il y avait le Jack, le bébé, qui ne faisait pas grand-chose parce que forcément c'était un bébé. Mais ce qu'on attendait évidemment, c'est de savoir quels allaient être ses pouvoirs. Parce que oui, il va avoir des pouvoirs comme les autres membres de sa famille. Donc, même si on en avait déjà un bref aperçu dans le premier épisode, ici, le film va clairement explorer ça beaucoup plus en profondeur. Et c'est un des enjeux majeurs du film. C'est la vie de Jack.
Est-ce que, toi qui as vu le film, est-ce que c'est pas un peu réchauffé? Est-ce qu'on n'a pas l'impression que la magie du premier a disparu pour ce deuxième? C'est souvent le cas avec un deuxième d'ailleurs.
T'as plus la surprise du premier avec effectivement le petit côté un peu magique dont tu viens de parler, mais ça reste quand même de très grande qualité parce qu'il se renouvelle pas mal. Faut dire que Brad Bird ne s'engage jamais dans une suite de films s'il n'a pas de bonnes raisons.
Un minimum de contrôle.
Voilà, c'est ça. Il veut être sûr que le contenu soit bon. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Ici, on a beaucoup plus la famille en entier qui est le personnage principal et toutes des problématiques qui sont liées aux super-héros, ils vont devenir illégaux au début du film. Le but, c'est de faire en sorte qu'ils soient légaux à nouveau,
oui.
Parce que le monde a besoin d'eux. Donc voilà, il y a plusieurs... la femme aussi, la mère, a beaucoup plus d'importance dans le film. Ce qui contrarie son mari, qui est plus dans l'ombre, du coup. Donc voilà, il y a plusieurs thématiques sociétales actuelles qui sont traitées, et toujours avec beaucoup de finesse.
Brad Bird, c'est quand même, d'ailleurs, si je ne me trompe pas, lui qui avait fait Mission Impossible 4, qui avait un peu relancé la franchise. suite à l'empreinte de J.J. Abrams. Il avait bien réussi, particulièrement dans ce film-là, pour les scènes d'action. Il est connu pour faire des belles animations pour des séquences d'action. Mm-hmm. Il y avait dans Ratatouille aussi une séquence assez impressionnante. Est-ce que dans celui-ci, il y a des séquences où, de nouveau, on se dit, tiens, il maîtrise vraiment l'animation, surtout pour l'action, quoi.
Complètement, complètement. C'est du pur film Pixar, c'est du pur film de Brad Bird. Il n'y a aucun doute là-dessus. C'est très beau et très dynamique. Vraiment, y a de très très bonnes séquences dans le film. Donc à ce niveau-là, on n'est pas déçus.
Voilà, donc ça c'est le premier film de l'été. Les Adjectifs 2. Bon, peut-être pas donner des notes et tout, vu qu'on est en émission spéciale. Le but c'est de faire une preview. Enfin,
ouais, on va pas donner des notes.
Non, on va pas donner des notes.
Mais c'est bien.
Mais c'est bien, en tout cas. Ça, c'est pour bien démarrer l'été.
C'est un petit peu moins bien que le premier, je trouve. Même si, au niveau des thématiques, c'est sans doute plus riche et plus... peut-être plus adulte.
Bah, de nouveau, quand tu regardes le calendrier de l'été, il n'y a pas 25 000 choix concurrents pour les films d'animation cet été, à part Hotel Transylvania 3, qui sort un peu plus tard, mais qui ne connaît pas le même succès, quoi. Bien sûr, on joue pas la même catégorie. Deuxième film qui sort le 27 juin, c'est le film Hérédité, de Ari Aster, que tu as vu...
Oui.
Différent comme ambiance, je suppose.
Ah oui, là, en dessous de 16 ans, n'allez pas trop le voir.
Ok, donc contre-programmation.
Ouais.
Pourquoi, en fait,
pas ça, du tout c'est dans quoi c'est... c'est un film, je ne vais pas dire film d'horreur, enfin, c'est film épouvante, horreur, réalisé par Ari Aster, donc c'est le premier film, qui... Ah, c'est difficile de parler ce film. Hein.
Bah vas-y.
C'est vraiment difficile parce que c'est quelque chose de vraiment très particulier et... C'est un peu le film surprise. Aux États-Unis, il a cartonné à Sundance. Et là, il est sorti en salle il y a quelques jours ou semaines et il cartonne. Et il cartonne parce que c'est vraiment singulier. Au niveau de l'histoire, au niveau du traitement, la mise en scène est hyper précise, hyper travaillée. Il y a beaucoup d'effets, un gros travail sur le son. Et en fait, ça raconte l'histoire d'une famille dont un des membres va mourir dans un accident de voiture. Et ça va être très difficile pour les parents, surtout que c'est de la faute d'un des autres membres de la famille.
D'accord.
Voilà, cet accident... Enfin, c'est pas complètement de sa faute, il y a un animal, voilà, ceci.
On peut lui en vouloir, il y a un drame interne qui joue, quoi.
Donc il y a un drame interne familial, et la mère va essayer d'extérioriser tout cela, de faire un travail sur elle, d'une certaine façon, qui va inclure du spiritisme.
Oula.
Voilà. Donc, je ne vais pas en dire plus, parce que après, c'est...
Non, mais c'est intriguant. C'est...
On entre dans des choses vraiment trop précises qui pourraient vraiment gâcher le spectacle et la découverte du film. Donc, niveau de l'histoire, je ne vais pas en dire plus. Mais le film ne va pas toujours là où on pense qu'il va. Et c'est ça qui est super bien. Parce qu'effectivement, là, on peut s'attendre à un film... J'ai déjà dit qu'il y avait un peu de spiritisme. On s'attend à quelque chose de très classique, au final, dans le cinéma d'horreur. Mais... non, il y a des surprises malgré ça, et c'est plutôt bien. Alors le casting est super bien, Toni Collette elle est géniale, Gabriel Byrne aussi, et ceux qui jouent les enfants sont aussi très très bons. Donc vraiment ça fut une très bonne surprise, même si, enfin, c'est pas vraiment un bémol, mais la fin m'a un peu décontenancé, parce que je m'attendais absolument pas à ça.
Parce qu'il n'y a pas de mauvaise chose en soi, c'est une
non,
surprise.
Non, bien sûr, quoi. Bien sûr, ça fait partie des surprises dont je parlais. De quel ordre est-elle surprise? Mais vraiment, oui, je m'attendais absolument pas à ce genre de fin, donc tant mieux. Mais voilà, comme quoi le cinéma d'horreur peut encore surprendre.
Mais écoute, on parle d'horreur, on continue à parler d'horreur peut-être un tout petit peu, puisque la semaine suivante, la semaine du 4 juillet, il y a American Nightmare 4, donc du coup le quatrième volet de The Purge, hein, c'était ça la franchise.
Ouais.
Qu'est-ce qu'ils ont encore trouvé pour nous amener à un twist sur cette franchise? Il y avait eu la présidente qui devait s'échapper ou je sais plus quoi, ils avaient vraiment trouvé n'importe quoi. Ici, c'est quoi le délire?
Alors, Est-ce qu'on fait un petit récap de ce que raconte The Purge ou pas ? Ça va ?
Non, mais en général, voilà, comme ça, pour ceux qui ne sont pas au courant, il s'agit en fait d'une journée aux États-Unis.
Une nuit, plutôt.
Une nuit, oui, c'est ça, de purge, où tout le monde peut faire un peu ce qu'il veut, et quand on dit ce qu'il veut, ça peut même...
Le meurtre devient légal.
Aller tuer quelqu'un n'est plus un crime, en effet. Donc du coup...
je crois que c'est pendant 12 heures, quelque chose comme ça.
Une nuit, éventuellement, ouais. C'est ça. Et donc les gens se lâchent à ce moment-là, et pour tous les motifs possibles, imaginables. Et donc, à chaque fois, on suit des gens qui vont essayer de survivre à cette purge.
C'est ça.
Ou des gens qui, à la base, ne voulaient pas du tout avoir affaire à cette purge, mais qui, finalement, se retrouvent dedans.
Ouais. Mais le premier épisode était un home invasion. Donc, on restait dans cette maison et des gens qui étaient à l'extérieur essayaient de trouver refuge, dans une maison. Et donc, on restait vraiment dans le cadre de la maison. Donc, c'était assez... c'est un home invasion. Rien d'hyper original, mais le contexte était déjà posé et pour le coup, il était un peu plus singulier.
Oui.
Le deuxième épisode, on suivait une nuit dans la rue des gens qui sont à cette purge, souvent contre leur plein gré. Hein. Ils ne voulaient pas forcément se retrouver dans la rue à cette heure-là. À cette heure-là, exactement. Le troisième était déjà plus politique. Il y avait le camp des pour, le camp des contre. C'était assez différent. Et ici, le quatrième, ils vont aborder les origines. Je crois que le film...
La création de la purge, quoi.
Voilà. Je crois que le film s'intitule d'ailleurs American Nightmare, les origines, un truc du style. Donc,
ok, d'accord.
Voilà. Pourquoi est-ce que les nouveaux pères fondateurs ont instauré cette nuit ? Les raisons, même si elles sont déjà évoquées, évidemment, dans tous les films, vont être plus explorées en détail dans ce film-ci.
De manière générale, je trouve que c'est une franchise qui est assez originale, un peu. Enfin, elle se repose sur un concept, quoi, un peu comme Saw à l'époque avait son concept. Par contre, j'ai jamais vu honnêtement. Donc, est-ce que c'est quelque chose de très gore, très violent, ou on est plutôt dans un film d'horreur assez plus thriller, plus d'ambiance ?
Ça reste, ça reste plus de l'ambiance. Ça reste quand même assez mainstream comme cinéma, donc ça reste accessible à quand même beaucoup de monde.
Il n'y a pas quelqu'un qui se coupe la jambe avec une scie ou un truc comme ça. Quoi.
Non, mais il y a de la violence, évidemment.
Oui, bien sûr.
Mais c'est vrai que c'est une saga que j'aime beaucoup aussi. Parce que. Alors, on n'est pas dans le truc univers partagé, mais voilà, il y a un concept. Et au final, les films ne sont pas forcément liés. On peut les regarder tous indépendamment les uns des autres.
Et ce qui est vrai, c'est que le concept, tu peux l'adapter à plusieurs genres de films. Tu peux faire un home invasion, comme tu as dit, ou bien tu peux faire un film plus d'action, ou bien tu peux faire un film en effet plus politique avec les dessous du pourquoi. C'est vrai qu'ils peuvent faire ça toutes les sauces. Quoi.
Ouais. Et pour l'instant, ils le font bien. Alors, tous les films ne sont pas, ils sont pas de qualité égale forcément, mais dans l'ensemble, franchement, ça tient plutôt bien la route.
Une autre suite qui sort le 4 juillet, c'est Sicario 2, assez attendu pour beaucoup de monde. Personnellement, je suis un peu moins fan de l'idée, parce que Denis Villeneuve n'est plus là pour cette suite, Emily Blunt non plus, c'était quand même les deux poids lourds du premier. Il y avait par contre Josh Brolin et Benicio Del Toro, qui avaient des rôles secondaires, mais des rôles secondaires assez marquants, qui avaient beaucoup de charisme en tout cas dans ce premier film, et c'est sur eux qu'on va se concentrer maintenant. Avec une suite directe. Hein. Il y a toujours des problèmes à la frontière du Mexique et des États-Unis, des cartels. Le gouvernement américain va mettre sur place des commandos, mais en même temps, est-ce qu'il y a une opération secrète ? On ne sait pas. Donc, c'est ce genre d'ambiance-là. La seule chose qui, pour moi, me rassure un petit peu, c'est que c'est quand même Taylor Sheridan qui a écrit, tout comme le premier, et puis aussi Wind River, qui était une très bonne surprise pour moi. Donc,
Ouais. Mais c'est vrai qu'à la base, je trouve que c'est un peu la fausse bonne idée. Une suite à Sicario, c'était absolument pas nécessaire, mais à nouveau, si c'est fait pour les bonnes raisons avec un bon scénario, pourquoi pas, parce qu'effectivement les personnages qu'ils ont choisi de reprendre pour cette suite, ceux de Josh Brolin, de Benicio Del Toro et deux trois autres personnages dans la troupe dans l'équipe de Josh Brolin reviennent, notamment que le nom de l'acteur m'échappe, l'acteur qui jouait le personnage principal de la série Burn Notice, Jeffrey quelque chose.
Soit.
Il est de retour aussi. Donc ça me botte quand même un peu de retrouver ces personnages, parce que effectivement avec ce genre d'équipe, tu peux faire à peu près tout ce que tu veux. Il y a moyen de faire plein de films si on a envie. Il serait peut-être répétitif, mais donc pourquoi pas. Voilà, je suis pas hyper emballé à la base, mais ça m'excite quand même de voir ce qu'ils ont fait de ces personnages.
C'est juste que le film de Denis Villeneuve était tellement unique. Il avait un début, une fin. Il était vraiment bien pensé, bien réalisé. Donc, tu te dis, pourquoi continuer là-dessus? Je comprends l'intérêt financier, bien sûr, même si je crois pas que ça a été un énorme carton non plus, Sicario. Je pense pas qu'on...
Non, non. Mais pour le coup, j'ai l'impression que l'intérêt n'est peut-être pas que financier.
Ah. Ben oui, voilà, bon. C'est ça qui m'intrigue un peu. Donc voilà, grosse question sur ce film-là. Est-ce que ça va être bien, oui ou non? Et surtout, est-ce qu'on est dans le même style de réalisation ou pas? À mon avis, il y aura quand même du changement. Donc j'espère ne pas être déçu. En parlant de films où on peut être déçu, est-ce qu'on ne parlerait pas du Terrence Malick qui a mis un an et demi à sortir Voyage of Time
un an et demi,
qui sort
reste
aussi le 4 juillet d'ailleurs.
Ouais.
Bon, rapidement, parce que Terrence Malick, je pense qu'il ne faut pas s'endormir non plus.
Bah, alors moi, effectivement, je l'ai vu il y a un an et demi en festival. Il sort enfin chez nous. Il était sorti en France en mai l'année dernière lors de projections uniques. Il y a eu plusieurs projections uniques au final.
Mais en fait, déjà sorti, quoi.
Enfin, voilà. Mais c'était une sortie très, très limitée. Donc, il s'agit d'un... Je ne vais pas vraiment parler de documentaire, mais voilà, c'est Terrence Malick qui filme la nature, la planète, les animaux. Hein.
Oui.
Ça dure je ne sais plus combien de temps. C'est narré par Cate Blanchett. Voilà. Donc, tu as des très, très belles images de planètes.
C'est pas le gars qui a fait la photo sur 2001 ?
Non, non.
Non ?
Non.
Rien à voir ?
Rien à voir.
Ok, j'ai cru lire ça quelque part, ou quelqu'un qui en tout cas a travaillé à l'esthétique sur tel et tel film, qui a travaillé sur celui-ci, un truc un peu spatial parfois.
C'est possible.
Peut-être pas 2001, parce que c'est vrai que ça remonte un peu il y a un bout de temps, mais
ouais.
Peut-être avec Christopher Nolan ou autre.
Mais écoute, c'est possible, ça ne me dit rien, mais je n'ai pas tout lu sur le film non plus, donc je ne peux pas t'affirmer quoi que ce soit. Mais voilà, ceux qui n'aiment pas trop la période de Terrence Malick post Tree of Life, je pense pas qu'ils vont aimer celui-ci. Les autres, peut-être, mais bon, ça reste quand même très particulier. C'est du Terrence Malick qui parle, qui se fait des réflexions philosophiques et autres sur effectivement l'environnement, la planète, l'être humain.
Forcément, donc, ça dure 4h30 ou
non,
ça va encore?
Je crois qu'on est à 1h30 plus ou moins.
Okay. Il a été gentil.
Mais peut-être un peu plus. Je sais plus exactement. Mais voilà. C'est sûr que ça ne paiera pas à tout le monde. D'ailleurs, je pense que la sortie sera assez limitée.
Ouais, assez discrète, c'est ça. Bon, changement d'ambiance, hein, on va partir un peu plus sur la comédie, mais non, on va se détendre, c'est l'été. Avec Au Poste, ça sort le 11 juillet, donc la semaine d'après, où là, il y a Benoît Poulvorde et Quentin Dupieux, si je ne me trompe pas, c'est comme ça qu'on dit son nom.
Quentin Dupieux, c'est le réalisateur.
Dupieux, oui, c'est ça, réalisateur.
Mister Oiseau dans la musique.
Exactement. À qui est opposé Benoît Poulvorde dans le film encore? C'est quelqu'un de chez
Palmachot,
non?
Palmachot,
oui, c'est ça, tout à fait. C'est quoi le concept? Bah, j'ai cru lire que c'était un interrogatoire. Tout le film se passait enfin dans un commissariat. C'est un peu ça le délire.
C'est ça.
Toi, tu l'as vu?
Ouais.
Tu nous en dis un peu plus. Il paraît que c'est court. Hein. C'est genre c'est 1h15, un truc comme ça.
Il dure. Oui, 1h13, il me semble.
Ouais, c'est ça quoi. Donc c'est to the point. Hein.
Ouais, mais alors en fait, effectivement, quasiment tout le film se passe dans un commissariat. Il s'agit d'un interrogatoire qui dure à peu près tout le film, bien que il y ait des séquences quand la personne qui est interrogée elle raconte son histoire, mais du coup voilà, on voit un peu ce qu'il raconte. C'est Benoît Poulvorde qui joue le flic et Grégoire Ludig joue la personne qui est interrogée. Donc il joue un gars qui a trouvé un cadavre au pied de son immeuble. Okay. Et la voisine l'a vu faire 7 allers-retours pendant la nuit entre son appartement et dehors.
Donc, il est sur la liste des suspects.
Donc, en fait, ce qui va raconter pendant quasiment tout le film, ce sont ces 7 allers-retours, les pourquoi du comment. Parce qu'effectivement, 7 allers-retours, ça fait beaucoup.
Pourquoi t'es parti cette fois de chez toi, la nuit d'un meurtre?
Voilà, exactement. et c'est complètement absurde et surréaliste. En même temps, c'est Quentin Dupieux. Enfin, les gens qui ont vu et qui aiment son cinéma savent de quoi il en retourne. Et savent évidemment que rien ne se passe...
Comme prévu, comme
d'habitude. C'est pas, c'est absolu, enfin, il est à part dans le cinéma français, il fait quelque chose d'unique, il est le seul à faire ça quasiment, et il le fait super bien. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. À nouveau, il perturbe à la fin, parce que
What the fuck?
Je vais pas parler de twist, c'est même pas des twists, mais c'est que il arrive encore à faire des...
C'est une suite à un cassage.
À retourner des choses... retourner les choses à l'envers, emmener les spectateurs là où où ils ne s'y attendent pas. Donc voilà.
Quoi, il y a une séquence sous acide ou quoi dans le film?
Non,
mais c'est pas son style.
Mais voilà, c'est quelque chose de très particulier avec un super casting, parce qu'en plus de Paul Vaure et Grégoire Ludig, il y a aussi l'humoriste Monsieur Fraise. Il y a des petits caméos aussi d'un réalisateur connu, français, qui a fait un film avec un agent secret. J'en dis pas plus.
Mich-mich.
Voilà, il y a des petites choses, des petites surprises comme ça. Ouais, ouais.
Mais rien que ça, c'est drôle, hein, déjà quelqu'un qui doit expliquer pourquoi est-ce qu'il est parti cette fois de chez lui.
Et oui, mais en fait,
tu peux directement t'imaginer toutes les conneries qui peuvent arriver.
Tu aurais presque avoir l'impression de voir un sketch du Palma Show, en fait.
Le mec, il doit expliquer cette fois ce qu'il a fait, quoi. Je sais pas qui.
Non, mais il doit justifier son premier aller-retour, son deuxième, le troisième.
Oui, oui. Ouais. Pourquoi t'es rentré chez toi?
T'as le fils qui fait, bon, ok, ça, je peux comprendre, ça, je peux comprendre, mais ensuite...
Hein, tu te fous de ma gueule, quoi, t'es parti 7 voilà. fois, quoi. Voilà. C'est ça, allez. Okay.
Il y a Orelsan aussi dans le film.
Ah ouais,
ouais, ouais. Et c'est pas juste un caméo.
C'est la génération
un
Yo-Yo.
Un petit rôle.
Mais c'est bien, donc c'est une bonne surprise, alors.
Ah oui, oui, oui.
Une bonne sortie de l'été, un peu inattendue, donc c'est très bien. Et Benoît Poelvoorde, toujours au top.
Toujours au top.
C'est du bon de dialogue ou c'est du comique de situation, principalement?
C'est quand les même deux, plutôt situation.
Ouais, ouais. Okay. Ouais, forcément.
Parce que c'est très visuel, donc...
Ouais, bien sûr. Ensuite, l'autre film qui sort cette semaine-là, c'est peut-être pas le même délire. Good Manners.
Non, c'est pas le même délire. Good Manners, c'est un film brésilien que j'ai eu la chance de voir dans un festival à Genève au mois de janvier et qui parle de loup-garou en fait au Brésil.
Pardon.
Donc c'est un film fantastique.
Je crois qu'il parle le loup-garou au Brésil.
Ça parle de loup-garou.
Okay.
C'est un film de genre brésilien qui est vraiment assez surprenant. On n'a pas vraiment l'habitude de voir ce genre d'histoire traitée de la sorte. Et ça concerne des enfants. Donc c'est vraiment très particulier et assez réussi. Et à nouveau, c'est le genre de film qui aura une sortie très limitée. C'est dommage parce que déjà des films brésiliens, on n'en a pas des masses. Alors non. En plus, un film de genre brésilien, encore moins. Donc si vous avez la chance de la voir dans un cinéma près de chez vous, franchement, n'hésitez pas. Surtout si vous aimez bien les films fantastiques. Si vous aimez bien les loups-garous et ce genre de choses.
Donc quoi, ça vaut la peine un peu de fouiller parfois dans les sorties de la semaine, parce que là où il y a le 11 juillet, il y a quand même... Donc Au Poste, Good Manners, c'est pas du tout le même style. Après, il y a Tully, un film que tu as aimé moyennement. On en avait parlé un petit peu.
Oui, je l'ai moyennement aimé. Je trouve que c'est le... Enfin, je les ai pas tous vus, mais je trouve que c'est le moins bon film de Jason Reitman.
Qui avait fait Juno, pardon.
Qui avait fait Juno. Et Jason Reitman, qui est donc le fils d'Ivan Reitman, le réalisateur de Ghostbusters. Hein.
Oui.
Donc,
un fils d'eux, mais oui, pas n'importe qui.
Un fils d'eux, mais il fait très bien ce qu'il fait.
Il a son style.
Juno, c'était vraiment très bien. J'aime beaucoup Up in the Air aussi.
Et donc, c'est un peu le genre de film. Bon, alors raconte vite de quoi ça parle, mais
alors, il s'agit d'une femme enceinte qui, après l'accouchement, son cadeau de la part de son frère qui est hyper riche, c'est de lui payer une nounou de nuit qui s'occupe donc du bébé pendant la nuit, donc pendant que tu peux dormir.
Ce qui est pas mal.
Voilà.
C'est un luxe.
Ben oui, donc tu prépares tes biberons, ou alors, enfin non, la mère, la nounou réveille la mère pendant la nuit juste pour qu'elle donne le sein et puis elle se rendort.
Elle te fait pas chier.
Voilà, ouais. Voilà, c'est ça. Donc, Charlize Theron joue cette mère de famille qui a déjà deux enfants. Et qui
est fatiguée.
Elle est fatiguée parce que son fils a des soucis d'attention, etc. Donc voilà, c'est un enfant...
Assez chaud, assez...
Pas forcément chaud, mais voilà, qui demande beaucoup d'attention.
Okay.
Donc l'école normale, c'est tout juste. Enfin, c'est tout juste... voilà, je dis pas qu'il devrait aller dans un enseignement spécialisé. Mais voilà, c'est un enfant qui demande plus d'attention, c'est tout.
Ouais.
Et donc, elle est déjà fatiguée. En plus, cette grossesse n'était pas spécialement désirée. Autant dire que c'est pas facile, quoi.
C'est pas la joie dans le ménage, quoi.
Et donc, une baby-sit, enfin une nounou de nuit est plus que bienvenue. Même si, à la base, l'idée la rebute un peu, quoi. Parce que forcément, te dire que tu ne remplis pas tout à fait ton rôle de mère.
Fin... C'est ça. Donc, c'est ça que le film explore, ou bien il explore une relation avec la nounou? Non. C'est quoi le...
Un peu les deux. Un peu les deux. Et aussi la vie de famille, parce que forcément, c'est un couple qui, entre le père et la mère, ils communiquent plus des masses. Donc, voilà, c'est pas facile.
Plus le temps de communiquer, ni rien.
Alors, Charlize Theron, elle est très très bien. pour le reste, moi, je trouve ça un peu plan-plan, un peu classique, un peu répétitif, malheureusement, parfois.
C'est un peu dans la veine des comédies américaines, du style Little Miss Sunshine, etc., où c'est des films un peu plan-plan, oui, quoi.
Little Miss Sunshine, c'est pas plan-plan.
Non, mais non, ça devient... En fait, le problème, c'est que depuis Little Miss Sunshine, ça a créé presque un genre aux États-Unis, j'ai l'impression. C'est du film dramo-familial avec 2-3 LOL dedans. Mais j'en ai vu 2-3 quand même des films comme ça ces derniers temps, et à chaque fois t'es là ok quoi. Il te faut aussi une séquence où tout le monde est dans une voiture avec une petite musique et t'as compris
Ouais. Bon, il y a un peu de ça, mais pas tant que ça.
c'est pas encore trop ça mais
Jason Reitman suit son style qu'on voyait dans Juno, qu'on voyait dans Young Adult où il y avait déjà Charlize Theron.
Il est un peu plus percutant, un peu plus drame quand même, hein,
oui,
que
oui. On n'est pas dans le feel good, c'est pas un feel good movie du tout.
Okay.
Donc voilà, un peu déçu, mais pas dénué d'intérêt, donc, forcément.
Trois films fort différents, donc Opus, Good Manners et Tully, et puis quatrième, alors là encore, très différent, Skyscraper, qu'on n'a pas vu.
Non.
Ça, c'est le film de gros bras, le film de ceux qui aiment Fast and Furious.
La Tour Infernale avec Dwayne Johnson.
Avec The Rock. Qui joue un ancien quelque chose. Il joue toujours un ancien quelque chose. Un ancien pompier, un ancien garde de sécurité, un ancien...
Ouais, c'est ça. Ici, je crois qu'il fait genre un style, un ancien soldat ou un ancien agent, je sais pas quoi.
Un ancien garde de sécurité, je pense, comme ça.
Ah, c'était garde de sécurité.
Je pense. Je suis pas sûr. Mais bon, il fait toujours un ancien quelque chose. Et il doit sauver la mise, quoi. Voilà. Sauf que le concept du film n'est pas mauvais.
Il doit sauver sa famille.
Oui, parce que le concept du film n'est pas mauvais. En fait, c'est qu'il n'y a plus de place sur Terre. Et donc, du coup, on crée des immeubles dans lesquels il est possible de faire des villes, en fait, carrément. Donc il y a genre des parcs et tout dans les enfin un truc de malade, quoi. Tu vois, des grandes tours gigantesques dans lesquelles il y a vraiment une vie, quoi. Justement, ces tours-là deviennent assez facilement la cible. Mm-hmm. Je sais pas si c'est une attaque dans le film, en tout cas il y a un feu qui se déclenche et la tour est mal en point.
Je regarde pas les bandes annonces, mais il semble que je l'ai vu
sauver sa famille qui se trouve à l'étage du bureau,
et effectivement il y a une attaque, en fait.
Voilà. Je sais pas si c'est une attaque ou du feu, mais en tout cas, ça brûle.
Si, il y a une attaque.
Il y a une attaque. C'est pas Greenfell, quoi.
Non.
Il aurait été utile de rock à Greenfell. Donc ça, c'est pour les 11 films de juillet. Ensuite, enfin, 11 films de juillet, les 4 films du 11 juillet, je vais y arriver. Maintenant, on passe à mon anniversaire le 10 juillet, je suis content. Où là, par contre, je suis un peu moins content de la programmation. On a Hotel Transylvanie 3. Personnellement, je n'ai pas vu les autres.
Le premier est bien, le deux un petit peu moins bien. Ça casse clairement pas trois pattes à un canard. Pas mémorable.
Ça parle de quoi? C'est la famille Adam, c'est Dracula, c'est...
Mais une famille de petits vampires.
D'accord.
Ah non. En fait, attends, si je me souviens bien, il y a le père, c'est un humain normal, roux, avec des cheveux crelés. Et la mère est vampire, donc ça fait des petits...
Des moldus.
Mais des mi-humains, mi-vampires. Voilà.
En fait, ça fait partie du Dark Universe ou pas?
Non.
Okay, d'accord. On n'entend plus parler du Dark Universe, c'est fini. Deuxième film de la semaine du 10 juillet, parce qu'on enchaîne, parce que bon, on n'a pas grand-chose à dire sur Hotel Transylvanie, si ce n'est que c'est le deuxième film animé de l'été, et c'est le seul, il n'y en a pas d'autres après, donc si vous avez des enfants et que vous voulez voir un film, à mon avis, vous n'avez pas trop le choix. Suite à ça, il y a Mamma Mia 2.
Here we go again,
mama. Okay. Alors, bon, il faut aimer, hein, c'est une comédie musicale avec...
Il faut aimer Abba.
Oui, je pense qu'il faut aimer Abba, il faut aimer aussi...
Abba.
Et il faut aimer aussi Love Actually, je pense. C'est un peu un mélange des deux quand on regarde le casting.
Il faut aimer les comédies romantiques et Abba.
Et un peu british, style british, même s'il n'y a pas que des british. Donc Meryl Streep, Colin Firth,
Stellan Skarsgård,
oui, ça c'est
Pierce Brosnan. Ils reviennent tous les trois.
Bien sûr, ils sont tous là. Amanda Seyfried aussi.
Amanda Seyfried.
Ouais. Seyfried.
Elle a encore en vie. Elle fait encore quelque chose. Elle.
Et il y a justement un casting jeune, comme tu le dis. Il y a Lily James qui vient. Il y a Stellan Skarsgård qui vont jouer en fait Colin Firth, Meryl Streep et tout en version jeune à l'époque où ils se sont rencontrés sur l'île grecque, ils sont tombés amoureux et tout, ils ont chanté. Je suis quand même content parce que Lily James est très jolie. La fille qui était en Baby Driver, qui a un sourire de dingue.
C'est vrai.
Et donc,
franchement, dans l'absolu, on s'en fout un peu de ce film, non?
Écoute, c'est la comédie musicale de l'année. Voilà. De l'été, donc si vous aimez ce genre-là, bah, faites-vous plaisir, j'ai envie de dire. Hein. C'est un feel-good movie, quoi. Hein. Des bateaux, du soleil, de l'amour, des familles, du drame. C'est tout ce qu'on aime.
Eh ben.
Sous le soleil. C'est un peu ça, en fait. En film.
Je veux dire, on a les références qu'on mérite.
C'est ça. Troisième film de la semaine, c'est Sweet Country.
Ah oui, alors... Oui. Alors, j'ai honte parce que...
Changement d'ambiance aussi.
Je ne me souviens absolument pas du nom du réalisateur.
Mais c'est Warwick Thornton.
Ah voilà, Warwick Thornton, exactement. Parce que je l'ai interviewé il y a 2 mois déjà, presque.
Ah bah dis donc.
C'est un film australien. Mm-hmm. Lui, il est d'origine aborigène. Enfin, il est aborigène. Et donc, en fait, il fait un film qui traite de cette problématique. Enfin, de cette problématique qui est que... Ben, les aborigènes ont souffert de la présence des Blancs.
Voilà, pas qu'un peu. Ouais. Oui.
Donc, on est complètement dans ce truc colonialisme, hein, on peut
et
le dire.
Et conquistadors, pratiquement. Enfin, c'est les Américains, c'est des British.
C'est les gens qui ont débarqué en Australie.
Ah oui, oui, ok. Oui,
donc, forcément. British, donc, plutôt British, effectivement. Mm-hmm. Voilà, il y en a un qui va... Il y a un aborigène qui va tuer un Blanc. Mais il se fait que ce Blanc attaquait l'aborigène. Mais vu qu'il est aborigène, bah, c'est lui un peu le coupable dans cette histoire. Quoi. Mmh. Et donc, le film raconte la fuite, déjà les faits en eux-mêmes, la fuite, et puis le procès qui va découler de tout cela. Mmh. C'est un film très poignant, très bien réussi, très bien réalisé, pardon, avec Sam Neill. Hein. Mmh. Donc, qui était un des héros de Jurassic Park, hein, pour rappel. J'ai vraiment été très, très pris par le film, très touché, parce qu'il y a des séquences absolument dingues. C'est dur, hein, c'est très rude. Donc, voilà, moi, on est complètement dans le cinéma indépendant qui n'a pas assez d'exposition et qui mérite qu'on en parle. Donc... Vraiment, si vous avez l'occasion de voir Sweet Country, n'hésitez pas.
Faites-vous plaisir, surtout que, de nouveau, cette semaine-là, c'est un peu contre-programmation. Hein. Hotel Transylvanie, Mamia 2, Sweet Country et le film qui va être numéro 1 de la semaine, c'est clair. Quoique, sauf grosse surprise de Mamia, Ant-Man and the Wasp, donc Ant-Man et la Guêpe, film de Peyton Reed toujours, avec toujours Paul Rudd et cette fois-ci Evangeline Lilly, toujours Michael Douglas.
Moi, j'ai hâte. J'ai hâte parce que, en fait, j'aime beaucoup Ant-Man. Je trouve que c'est un de mes Avengers préférés.
Peut-être, il est un peu de mi-côté quand même, hein, par rapport aux autres Avengers.
Ben oui, mais en fait, ils ne l'ont pas mis dans Avengers 4 parce que forcément, il a le film. 3. Il a son... 3, pardon. Oui, et... c'est le 3 qui vient de sortir. Et... Autant pour moi. Mais par ils ne l'ont pas mis dans Avengers 3 parce que, justement, c'est son film qui débarque juste après. Donc, il ne voulait pas faire 2 films de suite.
Ouais, par contre, dans la partie 4, ça va peut-être là.
Ah, bien sûr, il sera là. Okay. Bien sûr.
Tu crois qu'il y aura des éléments d'Avengers dans celui-ci?
Mais ça, c'est la bonne question. Est-ce que le film se passe avant ou après
pendant, ce que pendant, je veux dire, voilà, merde, donc, je ne peux pas être à New York.
Oui. Donc, c'est une bonne question. Mais à mon avis, le film se passe un peu avant.
Oui, enfin, il se passe pas en même temps. C'est trop galère. Déjà que faire Avengers 3, c'est déjà galère. Alors, si en plus, ils doivent penser à l'autre film qui tourne en parallèle, le bonheur.
Ben oui, mais moi, j'aimais beaucoup le premier film qui aurait dû être réalisé par Edgar Wright. Et finalement, c'est Peyton Reed qui était collé. Et je trouve qu'il a fait du très bon travail. Donc voilà, moi je suis très curieux de voir cette suite. Et j'ai vraiment hâte de le voir. Donc voilà.
Bah oui, écoute, pourquoi pas. Tout ça, ça sort le 18 juillet. Donc très chargé hein, de ce mois de juillet. On termine le mois de juillet avec donc le mercredi 25 et Don Quichotte, le fameux Don Quichotte de Terry Gilliam qui a mis un petit temps à sortir quand même. Surtout à se faire réaliser et à être en boîte. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, Don Quichotte sera présenté au Festival international du film de Bruxelles.
Ouais.
Le Brief, qui a lieu du 20 au 30.
Il fait le film d'ouverture.
Exact.
C'est le film d'ouverture. Mm-hmm. Terry Gilliam sera là. Avec aussi Sergi Lopez et Joana Ribeiro, actrice portugaise. Le film était en clôture de Cannes, c'est là que je l'ai vu. C'est quelque chose. C'est très particulier. C'est du pur Terry Gilliam. C'est pas l'histoire de Don Quichotte comme ça. C'est pas juste l'histoire de Don Quichotte.
Tout comme Life of Brian n'est pas la vie de Brian.
Oui. En fait, ici, il s'agit d'un tournage de l'histoire de Don Quichotte.
D'accord.
Donc, on est dans le monde contemporain. On est dans le monde moderne.
Ce qui c'est dingue ça, parce que dans la bande-annonce et tout, c'est pas du tout montré, quoi.
Ouais. Mais en fait, c'est même pas un spoil, parce que c'est vraiment dès le début. Hein, tu, direct, la première scène, t'es dans le monde réel.
Tournage.
Dans le monde actuel, c'est ça. C'est très méta, en fait, comme film. Hein. C'est un gars qui filme, un gars qui fait un film. Voilà. Il y a le cinéma est très présent dans l'histoire.
Et quoi, son film est super dur à tourner.
Mais c'est un. Il y a ça. Clairement, ah mais complètement. Terry Gilliam, c'est clairement inspiré.
Il s'est fait toute sa gueule, en fait. Il s'est dit, voilà, autant rigoler de ce qui s'est passé.
C'est ça, mais... Karma is a bitch, quoi.
Oui, c'est ça.
Il a eu des. Enfin, c'est son film maudit qu'il a mis des années, des années, des années à mettre en place, à réaliser et à sortir. Et donc, forcément, il en joue un peu dans le film, ouais.
Oui, bien sûr.
D'ailleurs, le film s'ouvre avec un panneau du style. Ce film a pris 25 ans à être fait, voici ce que ça donne, ou un truc du style, enfin voilà.
Genre, on n'a pas terminé, voilà ce que ça donne, j'ai plus d'argent, allez hop.
Non, c'est pas ça, mais voilà, ça, il est hyper conscient de tout ce que ça a impliqué, et voilà, il s'en moque.
Ah non, c'est en mode positif, si on a bossé 25 ans voilà. Sur ce film, en mode, waouh, ça va être un truc de malade, quoi.
Ça va être dur là non plus, mais voilà.
C'est ça. Ok, donc si je me rappelle bien, c'était donc il y a Adam Driver qui joue un rôle principal avec
le rôle principal.
Oui.
Enfin, oui, parce que c'est pas Don Quichotte le personnage principal, mais Adam Driver joue le personnage principal, qui est le réalisateur du film.
Ah, c'est lui qui a réalisé le film. Voilà. D'accord. Mais il joue aussi dedans.
Je n'en dis pas plus.
Ouais, c'est dans Bandalance.
Non, mais non, parce que
on dirait en tout cas dans Bandalance qu'il
joue dedans. Bref, quand vous verrez le film, vous comprendrez ce qu'il est.
Ok. Ce qu'il est, mon Dieu.
C'est le réalisateur du film.
Voilà. Oui, d'accord. Bon, ok, on parle un peu sur Don Quichotte, mais est-ce que c'est un film, voilà, ton impression générale sur le film, parce que tu nous as dit en quoi c'était pas mal, mais est-ce que ça reste quand même convaincant à la fin ou...
Moi, j'aime bien. Alors, il y a beaucoup de monde qui n'a pas aimé à Cannes.
Pourquoi? Parce que c'est l'humour british ancien ou...
Non, mais parce que je pense qu'il ne s'attendait pas à ce genre de truc. Il s'attendait à l'histoire de Don Quichotte par Terry Gilliam. Or, ce n'est pas du tout de ça qu'il est question.
Oui.
Moi aussi, à la base, je m'attendais à l'histoire de Don Quichotte.
Le film d'époque.
Voilà. Ouais. Et puis dès le début, je vois qu'on est dans le monde moderne et je me dis, oula, ok. Déjà, je ne m'attendais pas à ça. Et puis, malgré ça, le film va encore dans un autre délire.
Oui.
C'est pour ça que je ne te réponds pas de manière très claire le personnage d'Adam Driver. Mais donc voilà, moi, c'est très très surprenant, c'est fou. C'est Terry Gilliam, quoi, tout simplement.
Il y a des grosses surprises, quoi. Bon. Si on parlait maintenant du mois d'août.
Du meilleur film de l'été ?
Éventuellement, le meilleur film de l'été. 1er août, Mission Impossible 6.
Yes !
C'est quoi ? C'est Fallout le nom, non ?
Fallout.
Fallout, yeah. Le jeu vidéo. Fallout. Et là, pour être follé, il est bien follé, la Tom Cruise. Hein, dans son, ouais.
T'as vu la vidéo de sa cascade ?
J'ai vu les extraits. Il y a deux cascades apparemment assez dingues dans le film, même si à mon avis, il y en a d'autres. Il y a...
Le saut en chute libre.
Un saut en chute libre. C'est quoi? C'est le plus haut saut en chute libre jamais réalisé ou un truc comme ça? C'est genre à combien de mètres d'altitude qu'il est ou...
Il est très très haut.
Il saute à genre 3000 mètres.
Je sais pas, mais c'est... Ouais,
un truc de taper, quoi.
Il saute vraiment haut parce que c'est une technique particulière pour je ne sais plus quoi.
Qu'il doit avoir
échapper
un masque
au radar ou je sais pas quoi.
Oui, oui. Il va trop vite en fait, pour les radars et donc c'est du ça. Coup tu tombes trop vite.
Voilà.
Parce que tu viens de trop haut. Et donc du coup c'est une technique vraiment utilisée par des commandos. Et lui, il avait un masque à oxygène.
Ça s'appelle le Halo Jump.
Voilà. Et t'as un masque à oxygène obligatoire, ouais. Parce qu'il ne sait pas respirer.
Ouais, ouais.
Donc, c'est pour vous dire à quel point le truc est dingue.
Voilà. Et Tom Cruise oblige, il l'a fait, sans doublure.
Hein. Bien sûr. Sans parachute aussi, tant qu'on y est.
mais en plus, il tournait pas de nuit, mais il tournait quand la lumière... Je crois que
juste
quand
le soleil
venait
ça,
de se coucher,
ou
t'as une luminosité vraiment très particulière et très diffuse. Et donc forcément, je crois qu'il pouvait faire une prise par jour, quoi.
Je sais, j'ai lu qu'il
a ça a l'air dingue.
Il a dû faire plus de 100 fois le saut.
Ouais.
Pour les prises et pour les répétitions, pour tout.
T'imagines ce que le mec fait, quoi.
Ok, donc ça, c'est une des deux séquences. Et puis l'autre séquence, apparemment, c'est un hélicoptère où il a...
Ah oui, mais on pilote l'a vu lui-même. Dans les premières vidéos, effectivement, ouais. Où il pilote un hélico aussi, donc...
Mais sauf qu'il pilote pas en mode je décolle tranquille, j'atterris tranquille. Il pilote en mode je suis dans des ravins et je me fais faire des pics.
C'est ça. Et à nouveau, dans les quelques images qu'on a, mais il n'y a pas d'autres pilotes. C'est
Tom Cruise qui pilote. Tout seul, tranquille.
Voilà. Tom Cruise
à l'ancienne.
Ouais.
Oui, c'est un peu le last action hero, hein, Tom Cruise aujourd'hui. On peut dire ce qu'on veut.
Oui, c'est un des seuls qui n'ait pas besoin de doublure.
Il s'était cassé la jambe sur ce tournage-ci.
Oui, il s'était pété la cheville. Scène qui est dans le film. Hein.
Oui,
ils l'ont dit clairement.
Ils peuvent pas en mettre une
ils
autre.
Ils ont dit... ah si, mais ils auraient pu la retourner, tu vois.
Ouais, ouais.
Mais ils ont mis la scène où il se casse la jambe dans le film. Voilà. Ça dit
sans dire respect. Non, mais... Oui, d'ailleurs, après, ils ont fait semblant qu'il était blessé, le personnage, mais genre blessé du style, il a mal à la jambe, mais pas jambe pétée, quoi, tu vois, ouais. Pour faire genre qu'il puisse continuer à courir avec sa jambe. Mais soit.
Ouais, ça promet. Moi, j'ai très très hâte de voir le film. C'est Christopher McQuarrie qui réalise encore
Jack
Reacher comme 5.
Aussi.
Qui pour moi était le meilleur de la saga. Est toujours le meilleur de la saga.
Ouais, celui de Brad Bird était quand même très très bon, hein, le 4.
Le 4 était déjà très
pas
bien.
Pas mal d'humour aussi, c'est sympa, il y avait un petit
côté... Et le 5
Oui, je l'ai revu, je sais plus où je l'ai revu, je crois que j'étais en vacances quelque part. Il n'était pas en tout cas en français, ni en anglais. mais tu sais, il passait à la télé, il y avait la fameuse scène à l'opéra, là où il y a une fille qui s'en est tirée, etc. C'est vraiment pas mal, c'est...
On sent très, que très, très grande scène du film.
Oui, vraiment. Donc, on attend avec impatience Mission Impossible 6, Fallout. Oui. Ça parle de quoi, la...
Aucune idée.
C'est pas genre...
Je sais que le méchant du 5 est dedans, et je me demande s'il va pas s'échapper, un truc du style.
Ah, ok.
Mais voilà, c'est tout ce que j'en sais. Et je veux pas en savoir plus. J'ai déjà vu trop d'images.
C'est ça.
Je voulais... Voilà.
On veut éliminer tous les agents, tu vois, le truc assez classique. Ensuite, aussi le 1er août, pas du tout le même style, comme d'habitude, hein. Dogman, un film qu'on a vu à Cannes.
Ah, pas du tout le même style.
Pas du tout le même style, par le réalisateur de Gomorrah. D'ailleurs, qui avait gagné le prix d'interprétation, hein, Dogman.
Marcello Fronte a gagné le prix d'interprétation masculine.
Tout à fait. Et là, il est question de toilettage pour chien en Italie.
Exactement. Il est question d'un... En fait, il y a un homme qui va retourner dans son village, sa ville.
Son bled.
Il s'appelle Simo. Et le gars, il va vraiment semer la terreur dans le quartier. Et il y a Marcello, un toiletteur pour chien, qui est pris un peu en tenaille entre Simo, qui le terrorise, mais qui est quand même un peu son ami, donc il a une certaine affection. Et aussi les autres habitants et commerçants du quartier qui en ont marre de l'attitude de Simo, qui fout vraiment un bordel pas possible, quoi. Et donc, voilà, des choses vont se passer.
Oui.
On n'en dit pas
des
plus.
Des choses polies.
Des choses mouvementées. Hein, il va y avoir de la violence.
Des cadavres dans un camion de toilettage et des choses.
Il va y avoir des morts, etc. etc. Donc, c'est un film noir. Froid.
Pas en noir et blanc, attention.
Non, pas en noir et blanc.
C'est jamais.
Mais ce qui est génial, c'est Marcello Fronte, quoi. On a vu le film à Cannes, c'était une évidence qu'il allait gagner le prix d'interprétation
masculine. Déjà, il a une gueule.
Ouais, déjà, il a une gueule de malade. Et en plus, il est, et ouais, il est tout petit. Ce gars est fantastique, quoi. Vraiment, il livre une grosse, grosse prestation. Et... Voilà, c'est l'atout principal du film, clairement. Même si l'histoire est très bien aussi, hein, mais ce gars-là, pouf, on en entendra parler encore, c'est sûr.
Pour le coup. On va complètement zapper une semaine en août. On passe du 1er août au 15 août, parce que les sorties sont pas dingues. Et là,
Mais on touche déjà à la fin de l'été, là, non ?
Oui, on
presque combien de films, là ?
Il y a 5.
5 ? Ouais. On parle encore de 5 films, ouais, ça. Ouais.
En eau trouble... Le 15 août,
de Meg.
De John Turtlebaum.
Turtlebaum,
c'est la famille Turtlebaum. Le roi Tenenbaum, c'est un autre chose, ça. Rien à voir. Turtle, alors, ça s'écrit comme ça. Turtlebaum.
Ouais, c'est ça.
Ok, Turtlebaum.
Turtlebaum.
Voilà, qui avait fait Rasta Rocket, entre autres.
Ouais.
Benjamin Gates.
Ouais.
La dernière grosse saga avec Nicolas Cage, en tout cas, qui lui avait rapporté les pépettes.
Dans le Nicolas Cage Cinematic Universe.
Il est question du plus gros requin du monde, le mégalodon, d'où le nom de Meg, qui a vraiment existé, hein, le mégalodon, à l'époque, jadis, hein, on n'est plus aujourd'hui, mais qui était vraiment un énorme requin, quoi. C'est genre une baleine requin. Quoi, tu vois.
C'est le Jurassic Park aquatique, en fait. Que
exactement,
t'es en train de me raconter,
en fait, c'est, bah oui, d'ailleurs, c'est un crossover avec Jurassic World Fallen Kingdom. On a eu cette réflexion-là en sortant de la salle. Et donc là, l'idée, c'est qu'il y a Jason Statham qui est l'homme qui va se mettre face à la bête, entre guillemets, et tout faire pour arrêter le massacre. Donc en fait, on a un Jaws, mais sans la finesse, quoi. C'est un mélange entre Sharknado et Jaws. Je crois que c'est un peu comme ça qu'ils le vendent. Donc gros film de série B. Mais avec un budget colossal,
ça promet,
qui fait penser à Geostorm. Donc oui, je crois que c'est volontairement un film débile, mais pour ça, quoi, juste pour ça, pour dire voilà, va te faire plaisir le 15 août, c'est bientôt la fin de l'été, tu déprimes,
ça promet,
tu vas taper un petit Meg avec Jason Statham, hein, je sais plus qui d'autre il y a au casting, mais voilà, donc c'est vraiment un film sans prise de tête.
Mais je pense qu'il n'y a rien à ajouter là-dessus.
Et sans prise de risque. Je pense que voilà, vous savez pourquoi vous payez pour aller voir ce film. Par contre, prise de risque, oui, ça c'est le deuxième film du 15 août, Under the Silver Lake, de David Robert Mitchell, réalisateur de It Follows. Dans celui-ci, c'est Andrew Garfield qui joue le rôle principal. On en avait un peu parlé à Cannes quand on était sur place, on avait fait 2-3 capsules vidéo. Alors, je vais en parler un petit peu. C'est un film en fait qui est très intéressant, assez intriguant aussi, donc on ne s'ennuie pas. Pourtant, il dure quand même 2h20, quelque chose comme ça. Ça parle en fait d'un garçon un peu paumé à Los Angeles qui va être témoin de certaines choses un peu particulières, notamment une disparition de chien dans le quartier, notamment aussi une fille qui emménage près de chez lui qui disparaît pratiquement du jour au lendemain. Donc des événements bizarres, mais pas vraiment surnaturels pour autant, qui vont l'emmener dans une espèce d'enquête qui va mener un peu comme ça, en se traînant les pieds, parce qu'il n'est pas quelqu'un de très entreprenant. Il va tomber sur des gens avec des paroles aussi étranges qui vont le guider dans des soirées secrètes souterraines, des trucs comme ça. Enfin, c'est vraiment un film particulier. Il va y avoir aussi, il va rencontrer quelqu'un qui à un moment donné va lui révéler qui c'est, des secrets et tout. Enfin, voilà, c'est vraiment un film.
C'est une espèce de film d'enquête en fait.
Un film d'enquête. Ça me faisait fort penser au film noir en fait des années 40-50.
D'une certaine façon, ouais.
Aux États-Unis avec, tu sais, le petit jazz en fond comme ça.
Petit côté Los Angeles.
Exactement. Ouais, ouais. Los Angeles. Je fume ma cigarette sur mon balcon tout seul avec le petit coucher de soleil et j'ai une petite musique derrière, tu vois. Ce genre d'ambiance. Donc c'est assez plaisant puisque c'est avec une touche moderne. Hein, on n'est pas du tout dans le passé. On est vraiment aujourd'hui. Et il y a ce côté fait maison dans ce film-ci, parce qu'il y a plein de films où on essaierait de trouver en fait des anomalies un peu out of the box, tu sais, du style, il y a des loups-garous, des trucs comme ça, ou des aliens, ou, enfin j'en sais rien, tu vois, on essaierait de partir complètement dans quelque chose. Ici, on reste dans quelque chose de très... c'est fait maison, quoi, hein. c'est pas très compliqué, c'est des explications assez parfois tout à fait concrètes, mais ça surprend, c'est vraiment, ça m'a fait penser à un film amateur, sauf que avec Andrew Garfield et un bon chef-op, quoi. Voilà. En gros. Mais oui, c'est
oui,
vrai.
Donc
c'est vraiment un film assez intriguant que je conseille à tous ceux qui sont fans du genre et qui ont envie de découvrir un peu ce qu'il est possible de faire avec un peu plus d'ambition. Mais c'est clair que c'est pas pour tout le monde, quoi. Si vous avez envie d'un film très classique, thriller classique, avec une explication A à Z, enfin vraiment tout, c'est pas le film qu'il faut voir, c'est plutôt si vous avez aimé les films...
C'est un peu plus tiré par les cheveux. Il y a un petit côté sous David Lynch.
Exactement, si vous avez aimé les films de David Lynch, vous allez vous identifier un petit peu avec Under the Silver Lake sans trop de soucis.
Enfin, je dis sous David Lynch, non, pas forcément sous David Lynch, mais voilà.
Non, mais c'est clair qu'il a puisé dans le film de David Lynch.
Il y a des connivences.
Exactement. De nouveau, contre-programmation totale, le 15 août. Donc, The Meg, Under the Silver Lake et Equalizer 2. Avec...
ça va bastonner grave.
Ce bon vieux Denzel Washington.
Qui va frapper des gens avec des marteaux et...
Et
des outils trouvés au brico du coin.
C'est ça. Donc, comme d'hab, hein, c'est la saga d'action pour Denzel. Un peu comme Liam Neeson avait son Taken. Lui, il est avec Antoine Fuqua, qui avait réalisé notamment Training Day, donc un énorme film avec Denzel. Et là, c'est voilà, c'est l'ancien agent secret reconverti en espèce de tueur à gages quand il faut. En tout cas, il a l'as de la gâchette qui ne manque pas de régler des comptes à gauche à droite. Et dans ce cas-ci, je crois que c'est les tueurs à gages qui vont l'emmener un peu partout. D'ailleurs, à Istanbul aussi, entre autres. Ce qui m'a fait penser à Tekken 2, et je me suis dit, ouf. J'espère qu'elle va pas balancer des grenades par la fenêtre.
Est-ce qu'ils vont faire une course-poursuite de moto sur les toits d'Istanbul?
C'est pas dans la bande-annonce, par contre. Ils tuent des gens de manière très violente dans la bande-annonce, notamment plusieurs balles dans la tête, face caméra.
Yes.
Donc un truc bien sympathique.
Du sang, des boyaux, de la rate et du cerveau.
Exactement, comme au scout. Parce qu'on chantait ça au scout.
Mais oui, tout à fait.
Voilà. Donc Equalizer 2... De nouveau un film sans prise de tête, vous savez pourquoi vous payez pour aller voir ce film.
Peut-être sans tête d'ailleurs.
Et peut-être sans tête, même si voilà, c'est l'alternative un peu plus violente à Taken, puisque Antoine Fuqua est derrière.
Ouais, pas de concession. Hein.
Non, c'est pas vraiment... c'est pas édulcoré, c'est pas Disney.
Non.
Pas encore. On sait jamais, il se fait se racheter. Alors, ensuite on arrive le 22 août, c'est pratiquement la fin de l'été, avec deux films... pas la même catégorie pour le coup. Le monde est à toi de Romain Gavras avec...
Romain Gavras.
Gavras, pardon.
Gavras. Comme Costa, c'est le fils de Costa.
Ok, ah, d'accord, Costa Gavras, oui. Avec Vincent Cassel, notamment.
Ouais.
Tu l'avais vu ou tu ne
Je l'ai vu et j'ai rencontré Vincent à Cannes.
Comment va-t-il?
Il allait bien.
Il a pris du poids.
Les journalistes lui posaient des questions très très cons. Hein,
quand même. Ouais, comme quoi ouais, ouais.
Bon, Vincent, quels sont tes petits plaisirs dans la vie?
Hein c'est pour combiner.
Par exemple, l'odeur du café le matin, ce genre de choses. Tu vois.
Regardez mes poules à la veille ou quoi?
Kill me, please. C'est... Oui. C'est...
Et donc, voilà. Le monde est à toi, dans ce cas-ci. Le micro est à toi.
Alors, Le monde est à toi est un film qui raconte. Qui a un schéma narratif assez classique, dans le sens où il s'agit de quelqu'un qui a un projet, qui veut faire des choses dans sa vie, voilà. Et il n'a pas d'argent. Et donc, pour avoir de l'argent, il va avoir un plan. Évidemment, ce plan ne se déroulera pas comme prévu. Ils vont se faire arnaquer. Et puis après, ils vont devoir arnaquer les arnaqueurs. Tu vois, le style, quoi. Hein. Et il y a sa mère qui est impliquée. Il y a ton ancien mec qui est joué par Vincent Cassel, enfin l'ancien mec de la mère.
Oui, okay,
la mère est jouée par Isabelle Adjani.
L'ancien mec, pourquoi pas.
Donc là, t'as Isabelle Adjani, t'as Vincent Cassel, t'as Karim Leclou qui a le rôle principal. Il y a des touristes aussi, il y a François Damiens et Philippe Catherine qui ont des seconds rôles fabuleux.
Déjà, tu mets François Damiens et Philippe Catherine en second rôle.
C'est génial. C'est génial. Alors après, le film est super cool. J'ai l'impression qu'il s'emballe un peu beaucoup en France par rapport au film, parce qu'il n'y a personne qui fait ce genre de truc. Il n'y a personne qui a les couilles d'aller faire ce genre de truc un peu osé. Et donc, ils sont « Waouh, c'est dingue !» Oui, mais bon, il y en a déjà plein des films du genre, tu vois.
Oui.
En Belgique, le truc qui s'y rapproche le plus qu'on a eu récemment, c'était Pas de serre.
Oui.
D'Adil et Bilal, qui est clairement dans la même veine et qui, je trouve, est un peu plus réussi d'ailleurs. Mais non, Le Monde est à toi est très réussi, la mise en scène est assez cool, les personnages sont géniaux, et c'est ça qui fait qu'on passe un très bon moment devant le film, quoi. Et puis en plus, si tu rajoutes les seconds rôles, Philippe Catherine et
ouais,
François Damien,
c'est un pouf. Oui, c'est ça. C'est juste 2-3 scènes ou bien ils sont là vraiment dans plus longtemps dans le film?
Philippe Catherine a 4-5 scènes pendant tout le film, François Damien c'est un peu moins, mais elles sont peut-être un petit peu plus longues.
Okay.
Et voilà. Mais ils ont des petits rôles, hein, mais quand même important dans le film. Voilà.
Deuxième film qui sort le 22 août, c'est Burning.
C'est déjà notre dernier film, là, alors, du coup.
Oui, mais on peut en mettre un petit dernier pour la route, je vais en parler un petit peu.
D'accord.
Pas de souci.
Ah, tu me fais des petites surprises, là, comme ça.
Oui, bon. Oui. Burning, qu'on a vu également à Cannes. On avait même eu l'occasion d'interviewer Steven Yeun.
Oui, c'est le moment. Le Glenn de The Walking Dead.
L'instant
Previously film. On AMC's The Walking Dead.
Sur le ponton du Majestic. Quoi.
Interview à retrouver sur,
sur
la page Cinécast.
La page Facebook Cinécast.
Elle n'est pas sous-titrée encore.
Non.
On n'a pas eu le temps.
Parce que, comme vous le savez, on a été. Voilà, mais...
So, if you speak English, you can go on the Cinécast Facebook page and watch the interview.
If you want to translate stuff for us.
Do you want to
more than welcome.
Make
for
a
free.
Picture with us?
For free. Oui, c'est ça. J'ai un peu demandé à Steven Yeun si je pouvais faire
you
voulait une photo de moi.
To make a picture.
Si il voulait une photo de moi. Apparemment, il voulait une photo de moi. Écoute.
C'était épique.
C'était épique.
Mais on
était
fatigué. Burning.
Dernier jour pour moi.
Li Shangdong.
Li Shangdong, tout à fait, qui nous a fait ce film Burning, qui est en fait.
Alors, petite précision, Li Shangdong, qui est réalisateur, mais qui était ministre de la Culture en Corée du Sud, hein, comme ça.
Donc il pèse, quoi.
Voilà.
Pas trop près pour financer ses films, je pense qu'il a
deux, trois potes. Il a pas réalisé énormément de films encore, mais à chaque fois, le gars, il pose, quoi.
Il monte
le niveau, tu vois.
Qu'il est pas... Voilà. Donc, du coup, dans Burning, qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte l'histoire, en fait, d'un triangle amoureux, hein, on peut dire ça comme ça. C'est un jeune homme qui rencontre une amie d'enfance dans la rue. Amie d'enfance qui est devenue plus grande et plus jolie. Hein, et donc, lui, il est très intéressé. Bah, c'est en tout cas ce qu'il raconte.
Oui, bien sûr.
Je et tout. Il dit ça comme si elle était hyper grosse à l'époque et qu'il n'était pas très attiré par elle. Et puis c'est un peu ça, quoi. Donc il la voit, il dit oh mon Dieu, il ne faut pas que je la loupe celle-là. Et il discute avec elle et de fil en aiguille, bon voilà, ils couchent ensemble. Mais elle va partir un mois en Afrique parce qu'elle a économisé pour partir en vacances et tout. Et donc elle lui demande de venir garder son chat, ce qu'il fait. Mais quand elle rentre d'Afrique, elle ne rentre pas seule, elle rentre avec un jeune homme qui s'appelle Ben, qui a l'air d'être pas du tout du même milieu social que notre personnage principal, puisqu'il a une bonne Porsche. Tout se passe bien pour Ben, apparemment, c'est pas le même type de personnage, tout simplement.
Ses parents sont pas fermiers, quoi.
Voilà, ses parents sont pas fermiers. Donc lui essaie un peu de rester en contact avec sa copine, qui montre de plus en plus d'intérêt pour Ben, jusqu'au jour où elle disparaît.
Ouais.
Voilà, donc ce Ben est un peu mystérieux, hein. Il lui dit, voilà, moi j'aime bien aller brûler des serres et tout, le week-end tranquille, une fois par mois je brûle
des serres. Des serres, S-E-2-R-E-S.
Oui, des serres, non pas des serres.
Pas C-E-R-F.
Non. Donc brûler des serres et
ni
tout dans les champs.
Ni des S-E-R-F.
Tous les mois. Et cette fille disparaît du jour au lendemain, donc du coup, ici, forcément, il fait un lien entre ce Ben et la disparition de sa copine. Et il va mener sa petite enquête tout seul. Il va surtout en fait faire une partie de cache-cache avec Ben. Hein. C'est surtout ça.
C'est ça.
L'observer, le suivre pour voir un peu ce que Ben fait.
Si c'est lui le coupable déjà, parce qu'on n'en sait absolument rien.
C'est lui le coupable et voilà. Mais c'est clair qu'à travers ce scénario-là, entre le fermier et le gars de la ville, entre guillemets, il y a un peu, je pense, un reflet de la société
coréenne.
Coréenne, tout à fait. Parce que c'est vrai qu'il y a un peu un mélange inévitable entre la société, on va dire, plus capitaliste de la ville et tout, et peut-être les traditions. Je pense que c'est aussi ça le but, de montrer quelqu'un, un jeune qui va brûler les serres, qui va brûler un peu ce côté rural et l'agriculture, et ce jeune qui veut défendre un peu la tradition et dire voilà, moi je la connais depuis que je suis jeune, c'est mon amie d'enfance, elle est à moi, entre guillemets. Donc il y a un peu, c'est ça la seconde idée du film. Ouais. Alors je trouve que le film est très long, il prend un temps dingue à démarrer. Surtout ça en fait. Hein.
Ouais, en fait, c'est particulier parce que le film est adapté d'une nouvelle. Mmh. Donc déjà, une nouvelle, c'est pas très long. Et il en fait un long métrage de 2h30. Donc tu te dis, voilà, il faut du matos pour faire ça. Alors effectivement, le film est peut-être un peu long. Mais j'aime beaucoup ce qu'il en fait. Tout le côté thriller est hyper réussi, ouais. Je trouve. Parce qu'il... il est, à nouveau, il est sans concession aussi. Il va droit au but et... Et parfois, on te fait durer les trucs, et ça dure, et ça dure, et ça dure. Et alors, paradoxalement, alors que le film est assez long, le thriller en lui-même, il n'y a pas énormément de rebondissements. Hein. Il y a peut-être 2-3.
Non.
Enfin, il y a encore rebondissements. C'est vite dit. Hein. C'est des choses qui font avancer l'enquête, entre guillemets. Et je trouve ça très, très réussi. Et la fin, notamment, la dernière scène, l'épilogue, si je puis dire.
Ouais.
Et hyper et très frappant. Moi, je trouve qu'il est à nouveau, je m'attendais peut-être pas à quelque chose d'aussi sans concession et sans aussi direct, et je trouve que c'est très très réussi.
Oui, c'est vrai, c'est vrai que, comme tu dis, hein, ça avait une nouvelle, donc ça aurait pu être un court métrage honnêtement, mais c'est vrai que ça traîne en longueur, ça prend je crois 1h15 avant que la fille disparaisse, voire même plus, et c'est vrai qu'une fois que la fille disparaît, il y a vraiment une autre ambiance, une ambiance beaucoup plus prenante pour le film. Et donc cet aspect-là qui était très bien maîtrisé, mais qui se fait un peu attendre. Mais à part ça, ça reste vraiment un excellent film. Vraiment, si vous aimez le cinéma asiatique et coréen dans ce cas-ci, vous allez aimer Burning, ouais. Très certainement.
Et à nouveau, le cinéma coréen est très très peu distribué chez nous.
Mmh, malheureusement.
À part au BIFF et au Festival du film coréen, que tu... Il n'y a rien, quoi, quasiment. Il n'y a quasiment aucun film coréen qui sort.
C'est déjà un peu un exploit qui sort en Belgique, hein, parce qu'on n'était même pas sûr à Cannes que...
Bah, il a fait forte sensation, quand même, à Cannes, ouais. Auprès de la presse, notamment. D'ailleurs, il a gagné le prix Fipreski, donc, qui est décerné par un jury de journalistes. Donc, c'est dire s'il a eu quand même son succès, même s'il n'était pas au palmarès officiel, il a fait forte impression. Et je suis très content qu'un distributeur l'ait acheté. Donc c'est Imagine qu'il l'a acheté pour la Belgique, qu'il l'a acheté à Cannes. Donc voilà, c'est vraiment très très bien qu'il sorte. Et même si je l'ai trouvé un peu long aussi, j'irai le revoir avec grand plaisir. Parce que maintenant que je sais de quoi il en retourne exactement, j'aimerais bien le revoir pour avoir le voir sous un œil nouveau.
Exactement. Donc ça, c'est le 22 août Burning, et puis après le 29 août, pour terminer l'été, il y a Slenderman. Ça te dit peut-être rien, Thibaut, mais en fait Slenderman est un phénomène aux États-Unis.
C'est pas une marque d'alcool, ça?
Non, ça aurait pu, hein. Slenderman, c'est un phénomène aux États-Unis. En fait, tu sais, les gens qui ont qui avaient Photoshop, en fait, qui ont édité dans les photos un espèce de fantôme en arrière-plan comme ça, tu vois, qui dans ce cas-ci n'est pas vraiment un fantôme, c'est un homme en costard très grand, très, très mince, avec un visage blanc. D'accord. Un truc un peu creepy, quoi. Et ces photos ont fait le tour un peu du monde parce qu'il y avait des photos qui étaient très bien faites. C'est vrai que les gens étaient, mais c'est quoi ce truc, c'est quoi ce truc, bon, c'était un faux, quoi. Mais ça a pris tellement d'ampleur qu'ils en ont fait un jeu vidéo il y a quelques années, un truc un peu amateur sur le web, hein, c'est gratuit, je crois que vous pouvez le trouver, où tu étais avec ta lampe torche dans une forêt et tu devais pas être attrapé par le Slenderman dans la forêt. Et donc, c'était sympathique. Il fallait rechercher des pages dans la forêt pour trouver un plan pour sortir. Et dès que tu trouvais une page, en fait, plus le Slenderman approchait. Donc, un truc très, très anxiogène.
D'accord.
Et le jeu était vraiment bien foutu. Il y a eu des suites au jeu, un peu plus modernes, mieux faites. Et ça a été un vrai phénomène sur le net. Ça a été un gros buzz, ce jeu, parce que ça faisait peur à tout le monde. Et ils ont décidé d'en faire un film, non pas du jeu vidéo, où le but ne sera pas de suivre des jeunes dans une forêt, mais le but, c'est de montrer une famille et surtout une jeune fille qui est complètement poursuivie par ce monstre dans des photos, dans sa vie, quoi. Jusqu'au jour où, sans doute, il va commencer à tuer ses amis un par un, on s'en doute. Mais voilà, donc c'est un film d'horreur sur ce synopsis-là qui est assez intéressant.
D'accord.
Et cette histoire, voilà.
Bien, c'est intriguant tout cela.
Voilà qui conclut du coup notre tournée de l'été avec toutes ces previews.
Qui fut longue, hein. Ben voilà, on a
qui
une.
Qui fut longue. Pour toi, c'est quoi le film de l'été à part Mission Impossible 6
Comment tu me coupes l'herbe sous le pied?
Ouais, c'est lui, bien sûr.
Évidemment que j'allais dire Mission Impossible 6. Mais écoute, je pense que de tous les autres dont on a parlé, celui que j'attends le plus à part Mission Impossible 6, c'est Ant-Man sans doute. Et bizarrement, je dirais Sicario 2 aussi, que j'attends beaucoup du coup.
Moi, je pense que le plus gros succès de l'été va être Les Indestructibles 2.
Oui.
Sans trop de soucis.
Certainement.
Très impatient de voir Sicario 2, qu'en effet, pour savoir si c'est pas un échec total. Ant-Man un peu moins, parce que j'ai pas...
Les premiers retours sont quand même... bon, j'ai vu des premiers retours américains, là, tout à l'heure, avant d'enregistrer. Ça a l'air... bon, je pense que les gens trouvent ça un peu moins bon que le premier, mais tout à fait honorable, toutefois.
Et je pense que, mine de rien, un film comme, bon, forcément, Mission Impossible 6, mais de Meg, je pense que ça peut créer la surprise. Hein. Ça peut vraiment être un film où on s'y attend pas, mais ça peut être bien fun, quoi. Je pense que ça peut être quelque chose d'assez...
Une bonne sortie entre potes.
Assez sympathique, voilà. Donc voilà nos films de l'été, enfin nos films d'été, les previews de l'été. N'hésitez pas du coup à nous suivre sur Cinecast Facebook ou également sur le site cinecast.be. On va essayer d'être plus constant dans les publications à venir, même si... Vous l'avez remarqué, il y a pas mal de trucs sur le pipeline. On vous dit quoi ?
Oui.
On reste connecté. Des bisous.
Des bisous.